Cher gourou, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous, nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Jacques Prévert. Cher gourou, cet article fait suite à l'article Cher mouton. Cher gourou, des fois, je me dis que j'ai pas envie de devenir comme toi. Et d'autres, bah que je pourrais tout simplement assumer que je suis un guide qui accompagne des gens vers leur évolution et leur éveil. Mais comment savoir si mon envie que les gens soient plus évolués, plus libres, n'est pas juste une jolie façade qui cache un désir bien plus opportuniste, mon désir de reconnaissance personnelle et de réussite? Où est la fin? Et où sont les moyens? Qui est au service de qui dans cette histoire? Tu vois, tout ça, cher gourou, c'est flou pour moi. Ce que je sais, c'est que quand j'ai agi comme un détenteur de vérité et de connaissances, j'ai raconté pas mal de conneries. Enfin, des choses auxquelles je crois plus aujourd'hui. Comme par exemple le fait que notre communication soit non-verbale à 93%, qu'il faille 21 jours pour automatiser un apprentissage. Et là encore, je te parle que des petits détails, des exemples qui ne prêtent pas à conséquences en soi, mais qui révèlent quand même comment j'ai véhiculé des idées qu'on m'avait transmises parce qu'elles sonnaient bien et allaient dans le sens de ce que je voulais croire, sans qu'à aucun moment je prenne le temps de les vérifier. En gros, comment je me suis mis des œillères tout seul quand ça m'arrangeait. Tu sais, un peu comme ces gens qui croient aux synchronicités et qui retiennent les moments où il se passe des coïncidences étonnantes dans leur vie, mais oublient les autres moments qui sont pourtant 100 fois plus nombreux où il n'y a absolument aucune coïncidence. On crée des boucles d'autoconfirmation de nos croyances. Et moi, je me suis un peu enfermé dedans. Et ce qui me saoule le plus, c'est que j'y ai entraîné d'autres gens aussi. Et eux, ils n'avaient rien demandé. Alors, bien sûr, je ne vais pas mettre tous les gourous dans le même panier. Je sais bien que certains sont consciemment animés par une foi réelle de rendre le monde meilleur. Mais s'il y a bien quelque chose auquel on n'aura jamais accès, c'est l'intention réelle des gens. Tout ce qu'on voit d'eux, ce sont leurs actions. Meursault qui tue un arabe sur une plage après avoir vu les reflets du soleil sur sa lame de couteau. Il finira guillotiné pour ça. Pendant que des milliers de lycéens, pendant des années, continueront à disserter sur c'était quoi son intention. Et puis, une bonne intention ne garantit rien. Combien de parents avec l'intention de protéger leurs enfants se rendent indispensables à leur sécurité et les maintiennent dans un état de dépendance? Alors, sans doute qu'un bon gourou, en plus d'avoir de bonnes intentions, aura besoin d'avoir une sacrée expertise pour pas alimenter inconsciemment des enjeux de docilité, privilégiant la différenciation à l'emprise et favorisant l'émancipation de ses élèves. Ben moi, à défaut d'avoir ces compétences, je me suis fixé quelques principes pour éviter de faire trop de conneries. Leçon numéro 1, connais tes limites. Évite de faire le kéké quand tu parles d'un domaine qui n'est pas ton domaine de compétence. Quand tu sais pas, bah dis-le. Et quand tu parles d'un bouquin que t'as lu, bah fais pas comme si c'était toi qui l'avais écrit. Ça te soulagera et ça t'évitera d'avoir ce sentiment amer d'embobiner les gens juste pour sauver ta face. Leçon numéro 2, affiche tes échecs. Quand tu te rends compte que t'as merdé ou que tu t'es planté, reconnais-le. Ça fait un petit peu de mal à l'ego sur le coup. Mais le gain, dans le rapport de la confiance avec l'autre, sera plus important que la perte. Beaucoup de profs, d'enseignants, de formateurs mettent en avant leurs 60% de réussite et masquent leurs 40% d'échecs. Ça développe un sentiment d'incompétence chez les stagiaires, qui s'imaginent qu'ils doivent absolument réussir, et ça fout quand même une sacrée pression. Et tu connais le proverbe, après la pression, tu peux en boire une deuxième, la dépression. Tu peux rabâcher autant de fois que tu veux que tes élèves, tes disciples, ont le droit de se planter, de faire des erreurs. Ils ne l'intégreront jamais aussi bien que si tu l'incarnes. Alors, sois honnête et arrête de faire semblant de tout maîtriser. Leçon numéro 3. Questionne plutôt qu'affirmer. Tiens, je devrais me l'appliquer à moi-même celle-là. Quand quelqu'un te pose une question, bah demande-toi pourquoi il te pose cette question avant de chercher à y répondre. Écoute-le attentivement, plutôt que de vouloir montrer ta connaissance ou tes compétences. Et si tu peux, aide-le à identifier quelle est la question derrière sa question, et aide-le à voir s'il a les moyens d'y répondre par lui-même. Je développerai cette idée ultérieurement. Leçon numéro 4. Ne te prends pas trop au sérieux. L'humilité n'est pas toujours évidente, ni donnée à tous les gourous. Un remède sympa à ça, c'est l'humour. Déconne un peu, fais des blagues ou des mauvaises imitations, des bonnes aussi. Ça rappellera que t'es humain, même si les autres te mettent sur un pied ou une jambe d'estale. Leçon numéro 5. Mets-toi en position d'élève plutôt qu'en position de maître. Et c'est pas une posture de yoga. De la même manière que tu demandes à tes stagiaires ce qu'ils sont venus apprendre, demande-toi à chaque session ce que toi t'es venu apprendre avec l'aide de tes stagiaires et de tes clients. C'est une des plus grandes leçons que j'ai retenues de mes formations et de mes cercles d'écriture et de mes séances en cabinet. Ça m'a aidé à accepter, à défaut d'apprécier, d'avoir des stagiaires et des clients relous. Et souvent, ce sont eux qui m'apprennent le plus. Parfois aussi, je trouvais certaines de mes sessions de formation plus ennuyeuses que d'autres. Je ne comprenais pas pourquoi les stagiaires ne s'autorisaient pas à jouer et à oser plus. J'ai réalisé que souvent, c'était mon propre cadre ou ma posture qui ne le permettait pas. Difficile d'autoriser aux autres ce que tu t'interdis à toi-même. Leçon 6. Remets-toi en question. Ça devrait être la leçon numéro 1, celle-là. Toujours questionner. Questionne les autres. Questionne-toi. De toute façon, même si tu ne le fais pas, le monde le fera. Mais tu pourras toujours faire le sourd, hein. Alors écris, partage, réfléchis, poste, interagis avec le monde extérieur et affirme tes vérités. Non pas dans l'idée de les propager, mais juste pour entendre comment elles résonnent dans le grand monde et quel écho t'en parvient. Voilà, cher gourou, ce que je voulais te dire. T'as été mon maître, j'ai beaucoup appris de toi. Mais je souhaite suivre désormais un autre chemin, plus juste et plus en accord avec mes croyances. Peut-être que demain, je trouverai ces croyances-là obsolètes. Ce que je t'écris là, c'est juste mon approche. Et je te juge pas, je te condamne pas, je suis juste en train d'apprendre. Cher Namir, comme tous mes bons élèves, c'est normal que tu aies maintenant envie d'être maître. Et tu peux te le permettre. Je suis pas un gourou en courroux, bien au contraire, la vache. Je trouve que tes leçons sont hyper efficaces pour te faire passer pour un mec bien et anéantir le facteur critique de tes élèves en leur faisant croire que toi, t'es différent et que t'es pas un gourou. C'est malin. Grâce à toi, tes élèves ressentiront eux aussi le désir de se faire maître. Et vous finirez soit par faire l'amour ensemble sur des pots d'antilope caramélisées, sans aucune connotation sexuelle, bien sûr, je sais que tu as une éthique, mais juste pour partager ensemble le fluide de l'alliance éternelle, hérité du grand lémurien Zébroïde qui t'a donné l'accès à la connaissance du dieu Ra dans ta 14e vie antérieure. Car comme tu le sais, en égyptien ancien, ton prénom signifie « grand scribe ». Ou alors, tu pourras opter pour une approche moins ésotérique et créer un niveau 2, 3, 4, 5 à tes formations pour que tes élèves restent tes clients toute leur vie. C'est plus moderne, c'est plus rentable aussi. Je crois qu'on appelle ça le marketing. D'ailleurs, ton courrier tombe un point. J'ai un poste de co-directeur. Ça t'intéresse ?